Le dimanche 3 septembre 1939, lorsque la Grande-Bretagne et la France entrent en guerre contre l'Allemagne, cela fait déjà 2 jours que ce pays a envahi la Pologne. La disproportion des forces est trop importante. L'Allemagne engage 14 divisions blindées, les Panzerdivisionen, et près de 2500 avions, contre 11 brigades de cavalerie, seulement 2 brigades motorisées, et quelques 300 avions en état de fonctionnement mais obsolètes. Les Polonais ne manquent pas de courage. Mais que peuvent des charges de cavalerie contre des blindés? Dans un ciel clair et dégagé, l'aviation allemande s'assure la maîtrise des airs et bombarde les aérodromes, les nœuds routiers et ferroviaires, les centres industriels, les concentrations de troupes, sans distinguer entre objectifs militaires et cibles civiles. Le 3 septembre, les Allemands ont déjà conquis le couloir de Danzig et atteint la Vistule. Cracovie au sud sera occupée dès le 6. Les faubourgs de Varsovie atteints le 9. Lvov le 12. Les deux groupes d'armées allemands, nord et sud, font leur jonction, prenant en tenaille le gros des forces polonaises. Ainsi, en une dizaine de jours à peine, la guerre est perdue pour les Polonais. Leur capitale est encerclée et sévèrement bombardée par l'aviation. Mais elle ne capitulera que le 27 septembre, au prix de 40 000 morts parmi la population. Le coup de grâce sera donné par l'Union soviétique, qui, conformément au protocole secret additionnel du pacte germano-soviétique, pénètre à son tour en Pologne le 17 septembre, officiellement pour protéger les populations ukrainiennes et biélorusses qui vivent à l'est du pays. Pour les Polonais, la surprise est totale. En quelques jours, les Soviétiques atteignent Vilna, Brest-Litovsk, Lvov et font leur jonction avec les forces allemandes. Le général allemand Guderian et son homologue soviétique Krivoshein se rencontrent et décident d'organiser un défilé militaire commun. Du côté polonais, il n'y a plus de défense organisée. Le gouvernement a fui en Roumanie avec le haut état-major pour ne pas être capturé. Les dernières unités polonaises se rendent le 3 octobre et le 6, la guerre en Pologne est déclarée officiellement terminée. Le bilan se chiffre pour les Polonais à 266 000 tués et blessés et 700 000 prisonniers contre, officiellement, 35 000 tués et blessés et 5 000 disparus du côté allemand. La Pologne, après l'Autriche et la Tchécoslovaquie, est rayée de la carte et démembrée. La partie orientale est annexée aux républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie, tandis que Danzig et la Poznanie sont annexées au Reich et que le centre du pays, autour de Varsovie, devient un gouvernement général, entité administrative totalement soumise à l'arbitraire nazi, sous la direction du fanatique Hans Frank. Pendant ce temps, qu'ont fait les franco-britanniques? Malheureusement, rien, ou si peu, alors que l'armée allemande a engagé l'essentiel de ses troupes en Pologne et ne peut opposer à la centaine de divisions françaises et britanniques qu'une vingtaine de divisions presque toutes de réserve et de faible qualité. Pourtant, le protocole d'accord militaire franco-polonais prévoyait, en cas d'invasion de la Pologne par l'Allemagne, une action aérienne immédiate et une action offensive généralisée à partir du 15e jour après le jour initial de mobilisation. En fait d'offensive généralisée, l'armée se contentera le 5 septembre d'actions de reconnaissance en Sarre, suivie le surlendemain de l'occupation de quelques villages frontaliers allemands tels que Lauterbach, Geringen, Niereddeldorf, au demeurant vide de tout habitant. Les Français n'ont pénétré en Allemagne que de quelques kilomètres et la ligne de défense allemande, la ligne Siegfried, n'a même pas été atteinte. Mais cela permet de montrer aux actualités cinématographiques des soldats français patrouillant dans les rues désertes de villages allemands, la caméra s'attardant sur les enseignes en lettres gothiques. Ce que ces actualités ne disent pas, c'est que le généralissime Gamelin a ordonné dès le 12 septembre la cessation de cette offensive. La détérioration de la situation en Pologne ne la rend plus nécessaire. Est-ce du réalisme ou du cynisme? La reddition de Varsovie le 27 septembre et l'écrasement de la Pologne font craindre à l'état-major français un renforcement du front de l'Ouest. Et Gamelin décide d'évacuer les maigres conquêtes françaises en Sarre et de replier ses forces à l'abri de la ligne Maginot dans la nuit du 3 au 4 octobre. Cette opération aura coûté à la France 263 tués, 1100 blessés et 323 prisonniers, contre 198 tués et 53 prisonniers du côté allemand. À partir du mois d'octobre, les belligérants vont se contenter de s'observer de part et d'autre de la ligne de front, l'arme au pied. C'est le début de la « drôle de guerre », pour reprendre l'expression de Roland Dorgelès dès ce mois d'octobre dans un article de l'hebdomadaire Gringoire. On nommera cette période de la guerre la « Folly War » en Grande-Bretagne, la fausse guerre, et la « Sitzkrieg » en Allemagne, la guerre assise. Le quotidien du soldat français ressemble à une vie de cantonnement. On évite tout tir d'artillerie contre les forces allemandes situées au-delà du Rhin, car on craint des représailles. Les Français demandent même aux Britanniques de ne pas bombarder les centres industriels allemands de Rhénanie, toujours par crainte de représailles. En fait de bombes, les avions anglais se contenteront de lancer des tracts au-dessus de l'Allemagne. Mais l'inaction est mauvaise pour le moral des soldats. Il faut les occuper, en les envoyant aux champs pour aider les agriculteurs, ou en leur offrant des spectacles grâce aux théâtres armés et à la venue d'artistes de music-hall comme Maurice Chevalier ou Joséphine Baker. Sans oublier le courrier et les permissions qui permettent de s'échapper quelques instants de ce monde ennui. La propagande est alors la principale arme de guerre. Elle est confiée en France à l'écrivain Jean Giraudoux, qui est nommé commissaire général à l'information. Mais la propagande française se limitera à des slogans quelque peu naïfs, tels que « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». En Allemagne, la propagande bénéficie de plus de 7 années d'expérience sous la direction de l'expert qui est Joseph Goebbels. Plusieurs stations de radio émettent en langue française. La plus connue est sans doute Radio Stuttgart, où officie le journaliste d'extrême droite Paul Ferdonnet, surnommé le traître de Stuttgart. Cette propagande, dont le but est de saper le moral français, mélange habilement vraies et fausses informations, parvenant à donner le sentiment que les Allemands sont parfaitement renseignés sur ce qu'il se passe en France, renforçant le mythe d'une cinquième colonne d'espions dans le pays. Une campagne anglophobe est également lancée, avec des slogans tels que « L'Angleterre entend combattre jusqu'au dernier Français » ou « L'Angleterre fournit les machines alors que la France fournit les poitrines ». Est-ce à dire qu'il ne se passe strictement rien sur le front ? Non. Certains militaires ne supportent pas cette inaction et ainsi se créent des deux côtés des petits groupes de corps francs composés de volontaires qui franchissent les lignes adverses pour les coups de main. Un de ces hommes est un lieutenant, du nom de Joseph Darnand. Il s'est déjà illustré pendant la précédente guerre en faisant prisonnier le 14 juillet 1918 27 Allemands d'état-major et en récupérant des documents permettant de connaître le plan d'offensive allemand. Pour ce coup d'éclat, il a été décoré de la médaille militaire par le général Pétain en personne. Combattant volontaire au début de la Seconde Guerre mondiale, il est décoré de la Légion d'honneur pour avoir recherché un territoire ennemi, le corps de son chef tué lors d'une opération de reconnaissance. Ce qui lui vaudra d'apparaître en couverture de l'hebdomadaire Match en mars 1940. Il est devenu un héros national. Mais nous réentendrons parler de lui dans des circonstances, hélas, bien plus dramatiques. Français et Britanniques souhaiteraient en réalité pouvoir gagner la guerre sans devoir la faire. On mise sur une guerre économique, grâce au blocus maritime de l'Allemagne. Mais c'est oublié que ce pays est ravitaillé par les pays neutres. Tungstène du Portugal et d'Espagne, minerai de fer de Suède, pétrole de Roumanie, et surtout de la part de l'Union soviétique, livraison de céréales, d'essence, de coton, de platine et autres produits indispensables à la guerre. Pour sa part, Hitler va proposer, dans un discours devant le Reichstag le 8 octobre 1939, une nouvelle offre de paix passablement cynique. Puisque la Pologne a été rayée de la carte, le motif de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et de la France a disparu. Et il n'existe donc plus de raison de continuer à se battre. Mais Français et Britanniques ne croient plus aux promesses de paix du Führer, et cette offre est sèchement rejetée par Daladier et Chamberlain. D'autant plus qu'au même moment où il présentait cette prétendue offre de paix, Hitler convoquait le 10 octobre ses chefs militaires pour leur donner connaissance de sa directive numéro 6 pour la conduite de la guerre, datée de la veille, ordonnant la préparation d'une opération offensive contre les forces alliées en violant la neutralité de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Et ce, je cite, à une date aussi rapprochée que possible, soit dès l'automne 1939. L'attaque est d'abord fixée au 12 novembre 1939, mais le mauvais temps oblige Hitler à repousser cette date au 19, puis au 22, et ainsi de suite. Il y aura jusqu'à 29 reports de la date d'offensive en raison de la météo. En attendant, si sur Terre et dans les airs, cette drôle de guerre semble retenir les belligérants, il n'en est pas de même sur les mers. En effet, dès le début du mois de septembre 1939, les sous-marins allemands partent en chasse, envoyant par le fond, le 19, le porte-avions britannique Courageous, mais aussi des navires marchands et même purement civils comme l'Athénia, tuant 112 passagers. Le 13 octobre, un sous-marin allemand parvient à pénétrer dans la base maritime de Scapa Flow, dans l'archipel des Orcades, au-delà de l'Écosse, et coule en deux torpilles le cuirassé Royal Oak, avant de repartir sans avoir subi aucun dommage. Par ailleurs, avant même la déclaration de guerre, le cuirassé allemand Graf von Spee a pris la mer pour s'attaquer au trafic maritime de la Grande-Bretagne. Avec son navire ravitailleur, l'Altmark, il se dirige vers l'Amérique du Sud et à partir de la fin septembre, va couler de nombreux navires de commerce britannique. La Grande-Bretagne décide d'envoyer trois croiseurs légers à la poursuite du corsaire allemand. L'Exeter, l'Ajax et l'Achille. La confrontation aura lieu le 13 décembre 1939 dans l'estuaire du Rio de la Plata entre l'Uruguay et l'Argentine. L'Exeter est le plus touché par les salves du Graf von Spee et doit se replier vers l'archipel des Malouines. Les deux autres navires britanniques continuent le combat et mettent à mal le cuirassé allemand qui, dans la soirée, se réfugie dans le port neutre de Montevideo à la stupéfaction des Uruguayens. L'Uruguay est alors neutre et les règles internationales sont claires. Le capitaine du Graf von Spee n'est autorisé à rester avec son cuirassé que 48 heures dans ses eaux territoriales. Au-delà, le navire sera désarmé et son équipage interné. Or, le Graf von Spee est sérieusement endommagé. Il n'a plus de munitions. Et les Britanniques montent la garde à la sortie du port pour lui donner le coup de grâce. Le capitaine du cuirassé allemand voudrait gagner du temps pour pouvoir remettre son navire en état. Mais les autorités uruguayennes ne lui accordent que 72 heures. Aussi, le 17 décembre, en début de soirée, devant une foule de 500 000 personnes qui observent la scène depuis la côte, le Graf von Spee appareille pour rejoindre l'estuaire, où son capitaine donnera l'ordre du sabordage avant de se suicider. Cet épisode mettra un terme pour l'Allemagne à la guerre maritime de surface. Désormais, ce sont les sous-marins sous la direction de l'amiral Dönitz qui poursuivront la lutte. Au même moment, une autre guerre va éclater, opposant l'Union soviétique à la petite Finlande. Les deux pays sont pourtant liés par un pacte de non-agression valable jusqu'au 31 décembre 1945. Mais le protocole secret du pacte germano-soviétique laisse les mains libres à l'URSS, qui, fin 1939, réclame la cession ou la location de plusieurs îles du golfe de Finlande afin de sécuriser l'accès à Leningrad. Devant le refus des Finlandais, les Soviétiques se lancent le 30 novembre 1939 à l'assaut de la Finlande sans déclaration de guerre. La disproportion des forces semble manifeste. Sur un front de 1500 km, les Finlandais ne peuvent opposer que 200 000 hommes et une centaine d'avions dépassés face à plusieurs dizaines de divisions et plus de 800 avions. Mais les Finlandais résistent. Excellents skieurs, bien équipés, ils s'attaquent aux blindés soviétiques avec une arme incendiaire artisanale mais efficace. Une simple bouteille en verre, remplie d'essence ou d'alcool, hermétiquement bouchée, avec un tissu enroulé autour du goulot, imbibé d'essence et allumé au moment de la lancer. Cette arme prendra le nom de cocktail Molotov, en hommage ironique au ministre soviétique des Affaires étrangères. Et la Finlande ne fait pas que se défendre. Elle contre-attaque à partir du 12 décembre, pénétrant même en territoire soviétique. En France, le gouvernement et même l'état-major, pourtant si prudent envers l'Allemagne, contre laquelle le pays est tout de même en guerre, s'enflamment pour la cause finlandaise. Certains se prennent à rêver d'une action militaire contre l'Union soviétique à partir de la Syrie et du Liban, en bombardant ces puits de pétrole du Caucase, sans pourtant songer qu'il faudrait pour cela survoler l'espace aérien de la Turquie, pays neutre. Début janvier 1940, la France envisage plus sérieusement l'envoi d'une brigade en Finlande, mais avec le risque de se heurter aux soviétiques. Toutefois, ces projets militaires ne resteront qu'un rêve, car la pression de l'URSS sur la Finlande finit par être la plus forte. L'attaque générale commence le 11 février 1940 et les Finlandais sont contraints de demander un cessez-le-feu le 13 mars. Le pays doit céder 10% de son territoire en Carélie. La moribonde Société des Nations est quand même saisie. Mais la seule sanction, ce sera l'exclusion de l'URSS le 14 décembre 1939, ce qui n'a guère dû affecter Staline. L'immobilisme du président du Conseil, Édouard Daladier, accusé de mollesse, finira par provoquer sa chute le 20 mars 1940. Il démissionne et est remplacé par Paul Reynaud. Mais peut-on parler d'un renouvellement du paysage politique si l'on songe que Reynaud était ministre des Finances du gouvernement Daladier et que ce dernier conserve dans le nouveau gouvernement Reynaud le ministère de la Défense nationale? En ce début de printemps 1940, le front occidental est toujours aussi calme. Ce ne sera que le 10 mai, avec le début de la campagne de France, que prendra fin cette drôle de guerre. Mais les armes ont déjà commencé à parler un mois plus tôt en Scandinavie. À la différence des Français, les Britanniques avaient été beaucoup plus réservés quant à l'opportunité d'un soutien militaire aux Finlandais. En revanche, l'approvisionnement massif de l'Allemagne en minerais de fer par la Suède les tracassait davantage. La quasi-totalité de la production suédoise est en effet destinée à l'Allemagne via le port norvégien de Narvik, qui présente le grand avantage de ne pas être bloqué par les glaces en hiver. Churchill propose dès le mois de décembre 1939 de miner les eaux territoriales norvégiennes pour obliger les cargos allemands à rejoindre la haute mer, ce qui permettrait leur interception par la marine britannique. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, et le premier ministre Chamberlain se refusent à porter ainsi atteinte à la neutralité norvégienne. Mais, le 16 février 1940, des avions de reconnaissance britanniques repèrent l'Altmark, l'ancien navire ravitailleur du Graf von Spee, dans les eaux territoriales norvégiennes. Churchill sait que ce navire transporte des prisonniers anglais, et il ordonne à sa marine d'arraisonner l'Altmark et de libérer les marins prisonniers, ce qui est fait la nuit même, malgré les protestations norvégiennes contre cette violation de leur neutralité. Pour sa part, Hitler est persuadé que la Norvège s'est volontairement abstenue de s'opposer à l'arraisonnement de l'Altmark dans ses eaux territoriales. Et il demande dès le 20 février au général von Falkenhorst de préparer un plan d'invasion de ce pays et du Danemark voisin. Le 8 avril 1940, les Britanniques décident finalement de procéder à la pose de mines devant le port de Narvik. Mais Hitler les a devancés en passant à l'attaque la nuit même. Le Danemark, qui ne dispose pratiquement pas d'armée de terre ni d'aviation, est occupé en quelques heures, sans aucune résistance. Et l'invasion de la Norvège commence aussitôt. Ce pays neutre ne possède qu'une armée squelettique. Et dès le 9 avril, la capitale Oslo et les principales autres villes du pays tombent. Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim et surtout Narvik. Cette invasion éclair prend de court Français et Britanniques. Gamelin parle d'un simple incident de guerre, mais Reynaud veut réagir avec les Britanniques pour, je cite, « couper l'Allemagne des sources du minerai de fer ». Le Conseil suprême interallié décide de reprendre Narvik aux Allemands. La France enverra des chasseurs alpins et des légionnaires, corps d'élite, sous le commandement du général Audet et du colonel Bétoir. Les Alliés débarquent le 14 avril, à une cinquantaine de kilomètres de Narvik, isolant les forces allemandes retranchées dans la ville. Les troupes de Bétoir parviennent quant à elles à une trentaine de kilomètres de Narvik le 30 avril et prennent la localité de Björkvik, verrou ouvrant la route de Narvik. Narvik est prise par Bétoir et ses hommes le 28 mai. Toutefois, la dégradation rapide de la situation sur le front occidental qui s'est embrasé depuis le 10 mai sonne l'ordre d'évacuation de la Norvège. Le 8 juin, les derniers Français quittent la ville sur un destroyer britannique et le drapeau allemand flottera à nouveau sur Narvik dès le lendemain. La Norvège est désormais entièrement occupée par les Allemands. Le roi et son gouvernement se sont réfugiés en Grande-Bretagne avec la quasi-totalité de la marine marchande norvégienne, alors la première du monde. Un régime collaborateur est mis en place à Oslo sous la direction du pro-nazi Vidkun Quisling, dont le nom deviendra synonyme de traître. La campagne de Norvège est un succès pour l'Allemagne. Mais sa flotte s'en sort affaiblie, ayant perdu un croiseur lourd, deux croiseurs légers, 10 destroyers et 6 sous-marins. Cette fois-ci, la drôle de guerre est bel et bien terminée. C'est l'invasion de la France qui commence.